Place Info.
Bonsoir à la une. Évidemment, la réforme des retraites avec la poursuite de la grève, les mots d'Emmanuel Macron. Nous y consacrons la première partie de ces informés. Nous évoquerons également le raz-de-marée conservateur à Londres, mais aussi Martine Aubry en tête à Lille, selon notre sondage Ipsos Sopra Steria, vous le verrez. C'est dans les informés avec Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1, avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, et Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Bonsoir à tous les quatre et bienvenue sur ce plateau. Nous sommes ensemble à la radio jusqu'à 21h. Comment sortir du conflit autour de la réforme des retraites? Eh oui, les usagers du métro, des bus, du train commencent à trouver le temps quelque peu long. Alors que la menace de grève dans les transports plane sur les vacances de Noël, Emmanuel Macron a eu ces mots depuis le sommet de l'Union européenne à Bruxelles.
Sur cette réforme qui correspond à mes engagements et qui a fait l'objet d'un très gros travail pendant 2 ans de concertation avec tous les syndicats du gouvernement, je crois qu'il est bon que le gouvernement soit à l'œuvre. Poursuivre le travail et avance. J'ai eu l'occasion d'avoir un mot de solidarité pour tous nos concitoyens qui ont justement à souffrir des conséquences des grèves au quotidien. Mais je souhaite que là, le gouvernement poursuive son travail. Il est en cours. Le Premier ministre a pris plusieurs initiatives en ce sens. C'est une réforme historique pour le pays. Historique pour la refondation d'un État-providence du XXIe siècle. Et au moment que je jugerai opportun pour m'exprimer aux Françaises et aux Français, je le ferai depuis Paris.
Réforme historique de refondation plutôt que budgétaire. Hein. Je résume un petit peu. Roselyne Fèvre, c'est à destination de la CFDT. Pour lire entre les lignes.
Oui, sans doute. Et puis, peut-être quand même, ce qu'il faut rappeler, c'est que Emmanuel Macron était visiblement un peu flottant ces derniers temps là-dessus, puisqu'il l'a rappelé dans son programme présidentiel, c'était l'idée de remettre l'État social, de refaire de la solidarité, recréer une crédibilité, notamment vis-à-vis des retraites, refaire un système beaucoup plus juste. Donc lui, il était très attaché à cette réforme systémique, on va dire, et il aurait été un peu influencé par Édouard Philippe, qui lui voulait faire en quelque sorte une pierre trois coups, le systémique, les régimes spéciaux, et puis tant qu'à faire, eh bien les mesures d'âge.
Oui, c'est ce qui
a bien sûr braqué la CFDT. Et c'est l'erreur peut-être qu'a fait le gouvernement dans le fond, c'est de dire à la CFDT, bon, écoutez, vous déciderez de la mise en application de l'âge pivot, mais on a décidé pour vous, c'est 64 ans. Donc, pourquoi il s'est lesté, on va dire, pourquoi le gouvernement s'est lesté de ce qui était une ligne rouge pour la CFDT? Alors moi, on en reparlera peut-être, hein, j'ai quelques hypothèses.
Alors Thomas Clay, sur ces mots d'Emmanuel Macron qui soudain rejaillit dans ce débat de la réforme des retraites.
Pour qui s'intéresse à la politique, je trouve qu'on assiste à une magnifique bagarre politique actuellement entre effectivement deux légitimités qui s'affrontent et chacun se bagarre avec ses armes au fond. Le gouvernement et le président de la République se bagarrent avec la loi, avec la légitimité démocratique. Emmanuel Macron vient de le dire, un point très important, la réforme était dans son programme. Et de l'autre côté, on a une légitimité qui est une autre légitimité, mais après tout qui existe aussi, qui est celle de ceux qui conduisent les trains, qui font tourner la France et qui ont le moyen de bloquer une partie du fonctionnement. Et de cette bagarre, on va voir comment l'issue se profile. Mais enfin, je trouve que pour qui s'intéresse à la politique, je ne me souviens pas d'avoir vu un affrontement politique aussi dense, aussi intéressant et à l'issue peut-être, à mon avis, moins incertaine qu'on ne le pense, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, je trouve qu'on est là dans les fondamentaux de la politique et au fond dans ce qu'elle a de plus noble.
Franck Dedieu, sur cette interpellation du président depuis Bruxelles quand il dit historique de refondation, mais pas vraiment budgétaire. Ça l'est quand même éminemment pour l'instant. Hein.
Bien sûr, on a dit qu'il voulait faire une pierre trois coups. On est sur le chiffre 3. Il y a une troisième légitimité dans cette histoire. Légitimité démocratique du pouvoir politique, bien sûr. Légitimité syndicale qui représente les intérêts, bien sûr, mais aussi légitimité de la masse, de la force des foules. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que par-delà la question des retraites, on va en parler d'un point de vue technique par rapport au jeu de la CFDT, il y a quand même quelque chose qui fait que les Français suivent ce mouvement, alors même qu'il semble opposer au régime spéciaux. Donc on pourrait dire qu'il y a une sorte de contradiction. Comment ils peuvent soutenir ce mouvement et être, je dirais, défavorables aux régimes spéciaux? Ouais. Il y a une sorte de contradiction, mais en fait, il n'y a pas véritablement une contradiction, c'est qu'il y a une sorte de ras-le-bol. De ras-le-bol au regard de toutes les réformes, réforme du code du travail, réforme des retraites, et ils se disent, moi à chaque fois qu'ils entendent le mot réforme, ils se disent, on va perdre quelque chose. Et d'ailleurs, il y a un problème de confiance, on le voit à travers les profs. Le ministre peut dire et répéter, vous n'y perdrez pas, nous faisons nos calculs, nous allons faire tourner les modèles, et par la voie de l'augmentation de salariale, des primes, etc., vous n'y perdrez pas. Il y a un problème de confiance qui est rompu, et je crois que par-delà la question des retraites, la masse, les individus, avec les gilets jaunes, c'est une sorte, oui, de prolongement. Il y a une espèce de ras-le-bol au regard d'une sorte de réforme qui conduit à moins de pensions, parce que on pourra parler des cas particuliers, etc. Il y aura moins de pensions dans les années qui viennent, oui, pour les Français, pour une question démographique et pour une question, et je termine par, oui, là, de ces fameux 14%, parce qu'on s'accroche à ce ratio des 14% selon lequel, je dirais, les dépenses des retraites ne pourront pas dépasser 14%, oui, de la richesse nationale. Oui. Pourquoi 14? Pourquoi pas 12? Pourquoi pas 16? C'est comme les 3%. Ils se disent, qu'est-ce que c'est? On y croit. C'est complètement normatif, c'est bureaucratique, alors, c'est technocratique, c'est, et ça nous retombe sur nous.
Cette défiance que semble décrire à l'instant Franck de Dieu, Chloé Morin, c'est ce qui explique le paradoxe. Hein. On veut une réforme, mais on soutient ceux qui s'y opposent.
Oui, c'est ça. Enfin, on veut une réforme. On est à peu près résigné à l'idée qu'il faut changer le système.
C'est plus une résignation qu'un désir, selon vous?
Sur de nombreuses mesures, on voit que une bonne partie des Français se disent, bon, ça n'est pas souhaitable, mais c'est inévitable. Je vous donne quelques chiffres issus d'une enquête Ipsos réalisée pour France 2. Par exemple, vous avez sur le report de l'âge légal de départ à 62 ans, vous avez 41% des Français qui jugent que ça n'est pas souhaitable, mais que c'est inévitable. Sur l'allongement de
fatalisme,
la durée de cotisation.
Fatalisme, c'est ça. Hein, oui.
Sur l'allongement de la durée de cotisation, vous avez 47% qui disent que ça n'est pas souhaitable, mais c'est inévitable. Donc je pense qu'il y a cette dimension de résignation, quelque part. Qui joue. Et le gouvernement parie sans doute là-dessus. Vous disiez tout à l'heure que le président s'adressait à la CFDT quand il disait que sa réforme était historique, etc. Moi, ce que je vois, c'est quand même que quand on prend toutes les mesures, là où l'on obtient le plus de soutien pour la réforme du président de la République, c'est à droite.
Allez, 20h à droite, oui, à droite toutes. 20h et 10 minutes sur France Info. Rappel de l'info, on va poursuivre, rassurez-vous, hein, avec vous, Steven Gouaillet.
Le patron de la SNCF réclame une trêve aux cheminots mobilisés contre la réforme des retraites. Dans une vidéo, Jean-Pierre Farandou leur demande de réfléchir à faire une pause durant les fêtes. Une grève à nouveau très suivie demain, un Transilien sur 6 en moyenne, un TGV sur 4 et 3 liaisons TER sur 10 assurées par autocar. 9 lignes de métro seront fermées demain à Paris. 70 000 foyers restent ce soir privés d'électricité après le passage de rafales de vent dans le sud-ouest. Un homme a trouvé la mort après avoir percuté un arbre tombé sur la chaussée au volant de son véhicule. 5 autres personnes ont été blessées. Météo France place les Pyrénées-Atlantiques en alerte rouge, inondation face au risque de crue du Gave d'Oloron. Nouvelle manifestation d'ampleur à Alger, une marée humaine pour dénoncer l'élection au premier tour d'Abdelmadjid Tebboune, ancien premier ministre d'Abdelaziz Bouteflika. Le vote est truqué, ont notamment scandé les manifestants. Et puis en football, début de la 18e journée de Ligue 1, le LOSC accueille Montpellier pour tenter de conserver sa place sur le podium. Coup d'envoi à 20h45.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors, vous avez pu entendre tout à l'heure dans le journal d'Emmanuel Langlois, Jean-Pierre Farandou, hein, le patron de la SNCF, c'est un ancien cheminot, dans une vidéo envoyée sur le réseau d'information interne, appelant les cheminots en grève contre la réforme à faire une pause pendant les fêtes, une sorte d'appel solennel, hein, pour que les familles puissent se retrouver. La grève, eh bien, elle se poursuit, hein, elle divise les usagers. Voici ces témoignages dans le métro parisien.
Je soutiens les grévistes et je les trouve très courageux de faire ça. Je suis née avant 75, mais je pense aux autres. C'est malgré tout et avant tout de la solidarité, donc je pense aux autres.
Le Premier ministre n'a pas du tout répondu aux inquiétudes. On reste dans le flou total. Est-ce qu'on est né après 75? Est-ce qu'on a plus de 22 ans, moins de 22 ans? Toutes les classes d'âge sont complètement décomposée en plusieurs parties. On ne sait pas trop à quelle sauce on sera mangé. Je pense que c'est ça qui inquiète les gens. Je comprends cette grève et ils se battent pour eux, pour nous et pour nos enfants. Donc bah voilà, on les soutient.
Je suis pour que le gouvernement tienne jusqu'au bout. Il va bientôt y avoir plus de passifs que d'actifs. Bon, il va bien falloir payer les retraites. Il faut bien faire quelque chose quand même. L'argent ne va pas tomber du ciel. Hein.
On espère que ça s'arrête, quoi, que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que là, vraiment, on en a vraiment marre, quoi.
Chloé Morin, je vous ai coupé la parole tout à l'heure. On entend, hein, c'est évidemment, ce sont c'est un micro-trottoir, donc on fait un peu ce qu'on veut avec, mais c'est un petit peu la tendance quand même, hein, quand on balade le micro dans les couloirs du métro, les avis sont partagés.
Oui, alors on peut imaginer que le gouvernement va parier sur le fait que le mouvement va devenir de plus en plus impopulaire, notamment parce que bloquer les familles au moment des fêtes de Noël, ça n'est...
Ça va peser, ça, non?
Ça peut peser sur la popularité du mouvement. Après, la grande question qui se joue actuellement, je pense, c'est à qui va-t-on faire porter la responsabilité du blocage ? Pour l'instant, les sondages tentent à montrer que c'est plutôt au gouvernement que l'on reproche une trop grande fermeture à l'égard des revendications syndicales. Donc, pour l'instant, j'ai l'impression que le blocage nuit plutôt au gouvernement qu'au syndicat. Mais ça pourrait changer.
Ça ne rend pas sympathique, avez-vous dit, Thomas Clé ? Oui.
L'idée de bloquer les trains et empêcher les Français de réveillonner en famille...
Voir les dépôts de carburant.
Voir les vacances, partir en vacances. Mais non, ça rend pas sympathique. Mais je pense que justement, le gouvernement joue là-dessus. Alors moi, je voudrais faire un peu d'analyse machiavélique, si vous m'y autorisez, Jean-François Asselineau. Parce qu'au fond, on ne comprend pas, on pourrait ne pas comprendre pourquoi mercredi, le Premier ministre a annoncé cet âge d'équilibre à 64 ans, sachant que c'était, j'allais dire, un chiffre fond rouge. Mais bon, l'expression de maintenant, c'est ligne rouge à l'égard de la CFDT. Est-ce que c'est une erreur majeure qu'il a commise ? Moi, je ne crois pas ça du tout. Je crois qu'au contraire, il sait très exactement ce qu'il a fait, qu'il a laissé la CFDT pour l'instant à l'extérieur parce qu'il sait de toute façon qu'il en prend pour une semaine ou 10 jours de grève et de blocage et qu'il va revenir là-dessus. Il a déjà dit combien de fois que sa porte était ouverte, que sa main était tendue, pour d'une certaine manière ramener la CFDT et l'UNSA dans le sillage de la réforme, et laisser à l'extérieur qui, bah, ceux qui sont toujours contre et contre tout, c'est-à-dire la CGT et Sud Solidaire, et il va donc être dans un sort de rapport de force avec ces deux syndicats, et c'est eux qui vont devoir assumer...
Sacré scénario quand même.
Oui, mais c'est, mais vous allez voir, ça sera facile à vérifier.
Sans le consentement du leader de la CFDT, selon vous.
Sans le consentement, je ne crois pas je crois qu'il était effectivement, profondément et sincèrement en colère mercredi.
En colère, oui.
Mais si je vais jusqu'au bout de mon scénario, il sera facile à vérifier dans les jours qui viennent. On va se retrouver dans une situation où on aura un affrontement entre d'un côté le gouvernement et les syndicats réformistes et de l'autre côté la CGT et Sud Solidaire qui sont de toute façon contre tout, avec lesquels on peut pas discuter et qui vont prendre donc la responsabilité d'empêcher les gens de réveillonner. Or, qui va l'emporter ? Vous pariez sur qui ? On a un précédent qui n'est pas si ancien. Après tout, la SNCF était bloquée, la grève Perlée il y a 18 mois, et à la fin de cette grève Perlée...
Mais il n'y avait pas d'unité syndicale.
Non, c'est pour ça qu'il faut d'abord briser l'unité syndicale, et c'est pourquoi il faut revenir l'âge d'équilibre, et c'est pourquoi la CFDT est, non pas l'âge d'équilibre, mais le syndicat d'équilibre.
Alors, il y a trois scénarios. Le premier, c'est qu'on voit, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on voit que le gouvernement essaye d'assécher le mouvement en faisant, non pas en loose day, hein, mais là, puisqu'on voit Édouard Philippe et Jean-Michel Blanquer aller câliner les professeurs.
Oui, donc il y a eu une
catégorie
rencontre publique
par catégorie. On voit que les policiers se sont retirés du mouvement, même si on peut dire que ça arrive quand même tout ça très tard. Le deuxième scénario, c'est bon... C'est le scénario du petit recul, c'est-à-dire que Édouard Philippe dit bon, on enlève l'âge pivot, vous trouverez une autre solution, il dit ça au syndicat, vous trouverez un meilleur système, mais il faudra avoir l'aval du Parlement et du gouvernement, ça m'étonnerait.
Et enfin, troisième
scénario, c'est qu'à mon avis, il tient tête au gouvernement, et ça c'est peut-être Emmanuel Macron, il tient tête, il reste solide face aux syndicats, il dit qu'il peut peut-être se passer des syndicats réformistes, ça marche, il y arrive, et il consolide sa droite, Et s'il y arrive, il pourra dire, je suis De Gaulle, Thatcher,
ça fait du monde.
Et puis Schröder, je suis le roi de la jungle.
À partir de
et
quand on considère qu'il y arrive.
Alors, pardon,
à partir de quand on considère qu'il y arrive, parce que ça peut durer 3 mois.
Non, mais, alors, bien évidemment.
Je vais faire arbitrer ces scénarios par Franck De Dieu et Chloé Morin. D'abord, je vous fais écouter ce que disait ce matin Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport sur France Info, qui s'en est pris à la CGT.
La CGT cheminot doit assumer si elle fait grève le 24, le 25, le 26. Je dis d'abord que ce n'est pas ce que disent les autres syndicats. Je dis que le gouvernement est ouvert à la discussion. Et je dis que depuis le début, nous avons dit que nous avions vocation à ce que les régimes spéciaux intègrent le régime universel, ce que nous allons faire.
Et donc vous dites, Jean-Baptiste Djebari, aux usagers bloqués dans les transports, vous dites c'est de la faute de la CGT.
Non, je dis que chacun doit assumer ses responsabilités en démocratie. Et que c'est trop simple de dire ce que dit parfois la CGT cheminot, c'est la faute du gouvernement, c'est le projet du gouvernement.
Ah, l'idée de cibler au fond les jusqu'au boutistes, hein, j'essaie de faire une traduction de ce qui est dit par le secrétaire d'État. Franck De Dieu, ce que disait notamment, et Roselyne Febvre également, Thomas Clay, sur cette espèce de scénario étonnant où on laisse dehors la CGT pour la faire mieux rentrer par la suite.
Alors, moi je prends toujours au sérieux un juriste qui parle de machiavélisme, il doit y avoir quelque chose quand même autour de ça, et effectivement on se dit qu'il y a peut-être un scénario, je dirais 3 primes ou un quatrième scénario, c'est finalement, en faisant de la CFDT le syndicat pivot, on peut, et ça peut-être ça va jouer ce week-end, et peut-être ce week-end, on verra si on circule bien pendant les périodes de Noël, on peut à la fois, je dirais, dénaturer la notion d'âge, une notion de pivot, et puis sauver la face. Comment ? Vous avez en gros 3 leviers. Vous avez un premier levier qui est assez simple, c'est de se dire on change l'âge pivot. Ça sera pas 64, ça sera 63. Donc là, effectivement, on garde le principe, mais on dénature un peu, on change l'équation. On peut aussi travailler
Un gros recul, là. Hein.
La question du bonus ou du malus. C'est-à-dire, c'est quoi le bonus et le malus? Quelle est la notion, quelle est la décote? Est-ce qu'on pourrait pas, je dirais, amoindrir le malus et puis peut-être, je dirais, favoriser davantage le bonus? Et là, effectivement, on changerait pas à l'HPO. Et puis enfin, il y a un dernier élément, et c'était assez important pour la CFDT qui l'a défendu lors des dernières négociations sur les retraites, c'est pour les carrières très longues. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui ont travaillé très tôt, qui auront quand même des années de larges années de cotisation et à qui on pourrait dire, pour le coup, l'âge pivot, ça sera peut-être différent pour vous. Donc, effectivement, vous avez la possibilité d'offrir des marges de manœuvre de manière à ce que la CFDT, qui se retrouve finalement pivot, puisse sauver la face et le gouvernement aussi. Et je pense que ça va se jouer ce week-end.
Alors, on va donner la parole dans un instant à Chloé Morin autour de cet âge de référence, dit âge pivot. 20h et 20 minutes sur France Info. Tout d'abord, un rappel de l'info avec Steven Goyer.
Pas d'électricité pour plus de 17 000 foyers en Corse ce soir. Conséquence des vents violents qui s'abattent sur l'île, les 2 départements Corse sont placés en vigilance orange par Météo France. Pas d'eau du robinet cette fois pour les habitants de Cahors dans le Lot. La ville appelle à ne pas utiliser l'eau rendue impropre à la consommation après les précipitations des dernières heures. Des distributions de bouteilles seront effectuées ce week-end. La préfecture de Seine-Maritime donne son feu vert à la réouverture de Lubrizol. Décision moins de 3 mois après l'incendie du site Seveso. Une réouverture partielle annoncée pour demain matin. Édouard Philippe à Nancy pour défendre le projet de réforme des retraites face aux enseignants. Un débat pendant près d'1h30. Les syndicats de l'éducation nationale maintiennent leur appel à la mobilisation pour mardi. L'homme en charge du dossier, lui, est de nouveau fragilisé. Jean-Paul Delevoye n'a pas déclaré à la haute autorité sa position de membre bénévole dans le conseil d'administration à la fondation SNCF. Une trêve dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Washington et Pékin annoncent avoir convenu d'un accord préliminaire, notamment sur la question des tarifs douaniers. La date de la signature finale n'est pas encore connue.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Voilà donc cet âge de référence ou âge pivot qui semble être désormais une sorte de monnaie de négociation pour tenter de sortir partiellement du blocage de la crise autour de la réforme des retraites. Chloé Morin, il y a quelque chose d'assez extraordinaire au fil des jours, des semaines, depuis que nous parlons de cette réforme en question, c'est qu'au fond, peut-être que les uns et les autres ont oublié que l'âge de référence qui vraisemblablement sera mis en place, le 1er ministre l'a confirmé mercredi dernier, ne concernera pas les seuls futurs retraités de l'après 1975, mais de vrais retraités là, de tout de suite, de maintenant, puisque faute d'accord, en cas d'absence d'accord réel, eh bien, au fond, il va falloir rentrer progressivement à partir de 2022 pour atteindre l'âge pivot de 64 ans en 2027, eh bien, ça pourrait concerner la génération de retraités dès 1965. En fait, les Français découvrent aujourd'hui que, au fond, cet âge de référence, âge pivot, appelez-le comme vous voulez, eh bien, devrait concerner aussi beaucoup plus de monde que simplement les futurs retraités de la génération 75. Il y a d'abord cet aspect des choses, Chloé Morin, qui est très préjudiciable pour le gouvernement, c'est que on a la sensation de découvrir les choses un petit peu, on va dire, au fur et à mesure.
Oui, il y a eu un flou. Dès lors que le gouvernement, si vous voulez, apparemment ouvert à la négociation, la contrepartie, c'était qu'il y avait un flou sur le fond de la réforme qui a probablement entretenu l'idée que derrière ce flou, il y avait des réformes, enfin des mesures négatives et préjudiciables, ouais, à la plupart des Français, qui ne s'assumaient pas. Maintenant qu'on a un peu plus de précision, il faudra voir si les choses changent. Mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe le plus, c'est qu'entre septembre et aujourd'hui, la proportion de Français qui considèrent que leurs pensions seront moins favorables avec cette réforme qu'elle ne l'était avant, est passée de 36% à 47%. Donc vous avez quasiment un Français sur deux aujourd'hui qui vous dit avec le nouveau système, je vais y perdre, ce qui est une donnée absolument clé pour le gouvernement. Évidemment, je pense que derrière toutes les mesures techniques dont on a d'ailleurs du mal à comprendre toutes les implications, ne serait-ce qu'à titre individuel. Derrière ces mesures techniques, il y a aussi la recherche de symboles. Et quelque part, je pense que ce qui se joue aujourd'hui, on l'a déjà beaucoup dit, mais c'est en gros, qu'est-ce que Emmanuel Macron pourra revendiquer en 2022 comme symbole de son réformisme. Il a aujourd'hui la réforme de la SNCF, il a peut-être le prélèvement à la source, mais c'est vrai que ça ne fait pas énorme pour un présent.
Donc
un
il faudrait qu'il y ajoute la réforme des retraites.
Donc je pense que c'est un élément à considérer, que il a déjà perdu sur ce point, sur cette réforme sa gauche, et que il est important pour lui de tenir sur des mesures qui sont chères à la droite. Et notamment des mesures qui ont des implications budgétaires.
Oui, Thomas Clé.
Oui, je pense que Chloé Morin a raison. C'est à la fois la mère des batailles de ce quinquennat, et c'est aussi derrière la réforme des retraites, la capacité de réforme du gouvernement qui est en jeu. S'ils n'y arrivent pas, ils ne pourront plus rien faire pendant les deux ans qui restent. Alors après, il y a le problème de l'incarnation de cette réforme.
Oui.
On a un problème aujourd'hui avec Jean-Paul Delevoye.
Alors vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui, le haut commissaire en retraite Jean-Paul Delevoye, qui est membre depuis 2016 du conseil d'administration de la Fondation SNCF, eh bien c'est une information de capital qui est confirmée par France Info. Eh bien il n'avait pas déclaré son poste à cette Fondation SNCF, ce qui, alors c'est bénévole, ça ne pèse mais...
C'est fâcheux, c'est quand même le troisième oubli en une semaine. On a l'impression que Jean-Paul Delevoye est plus à l'aise pour calculer les points de retraite que les lignes dans sa déclaration d'intérêt.
On espère qu'il connaît quelque chose aux retraites.
Et c'est fâcheux parce que ça concerne à la fois la SNCF et les assurances, c'est-à-dire au fond ce qui est en jeu dans la réforme.
Pile poil, hein.
Mais oui. En même temps, c'est pas surprenant. Il faut se souvenir qui c'est Jean-Paul Delevoye. Jean-Paul Delevoye, c'est un apparatchik de la politique. En préparant cette émission, j'ai repris un peu son parcours. Il a été évidemment ministre, maire pendant 10 ans, sénateur pendant 10 ans, député, conseiller général du Pas-de-Calais pendant 20 ans, médiateur de la République, président de l'Association des maires de France, candidat à la présidence du RPR. Quand on fait le cumul de toutes ces fonctions, on arrive à 69 ans. 69 ans de fonction. Donc le cumul, il connaît. Donc il est en train de cumuler une fonction de haut commissaire.
Vous dites quoi ce soir, Thomas Clé, démission ?
Non, je dis pas démission. D'abord, je trouve que c'est toujours très pauvre politiquement d'appeler à la démission, mais je dis
manifestement, ses fonctions sont bénévoles. Sans doute, il ignorait encore que... Pas toutes, d'ailleurs. Il y en a une où une des fonctions qui lui reprochait, il gagnait quand même 5000 euros par mois.
Il était rémunéré, oui.
C'est plus que du bénévolat. Donc, non, ça, c'est gênant. C'est gênant de cumuler ainsi. Mais c'est la tradition, au fond, de ce qu'il incarne lui-même dans la Ve République. Et c'est exactement l'antimodèle de ce que veut incarner Emmanuel Macron.
Franck Dedieu, vous êtes d'accord avec le regard de Thomas Clay sur, au fond, la gêne que dégage cet oubli multiple de Jean-Paul Delevoye.
La fondation SNCF, c'était non rémunéré. Cette fondation n'avait pas manifestement un rôle clé dans la décision stratégique. Mais en revanche, c'est vrai que ça fait beaucoup, quoi. Et par-delà de la question de Delevoye, il se pose quand même des questions sur l'incompatibilité. Il faut réfléchir quand même à ces histoires d'incompatibilité. Et puis aussi, d'essayer de prévenir en amont des conflits d'intérêts. Je veux dire, c'est quand même pas normal qu'on se rende compte, comme ça, quelques mois après, de tous ces oublis. Pour revenir à la question de l'incarnation, effectivement, on est d'accord, Jean-Paul Delevoye ne va pas incarner, c'est fini. Mais je crois que nous, à Marianne, on est beaucoup allé sur le terrain. On a tendance, nous, les journalistes, à dire « Oui, mais alors, attention, c'est Delevoye qui a pour ministre de tutelle Agnès Buzyn qui va marquer un point par rapport à Édouard Philippe. » Non. Quand vous descendez dans la rue, l'incarnation, c'est Emmanuel Macron, point final. Oui. C'est Emmanuel Macron. Bien sûr, vous pouvez
vous rejoignez ce que dit Chloé Morin. Cette case-là.
Vous pouvez multiplier les premiers ministres, etc., de dire qu'il y a du Juppé chez Édouard Philippe. Oui, il n'y a pas du Juppé parce qu'il ne va pas rester droit dans ses bottes. Peu importe. La question, c'est Emmanuel Macron qui l'incarne.
Allez, on va, dans la deuxième partie des Informés de France Info, revenir sur Jean-Michel Blanquer, qui est toujours en piste à Nancy face à des enseignants. C'est une sorte de mini-grand débat national autour de la réforme des retraites. Il était accompagné au départ jusqu'à 20h par Édouard Philippe, qui a dû se retirer. On reviendra sur cette tentative d'explication publique de la part de membres du gouvernement. Pour l'heure, 20h et 29 minutes sur France Info, nous marquons une petite pause pour la météo et le rappel de l'info.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
La météo, les prévisions avec vous, Elodie Calac pour Météo France.
Encore très perturbé, beaucoup de vent, 70 à 90 km à l'heure, plus en montagne, 120 pour la tramontane, jusqu'à 130 km à l'heure en Corse, 150, 170, voire plus pour les caps et le relief. Un coup de vent aussi sur les régions voisines de la Manche, jusqu'à 100 km à l'heure, 120 sur les côtes. Sur le sud-ouest, attention aux inondations et aux crues, le Gave d'Oloron est en vigilance rouge. Prudence sur les Alpes du Nord, en vigilance orange pour les avalanches, il neige en abondance. La pluie balaie le pays entre ce soir et cette nuit. Demain, il pleuvra de la Vendée et du nord de la Nouvelle-Aquitaine aux régions de l'Est. Des averses au nord, mais retour au sec au sud de la Garonne. Le vent sera encore fort, mais il s'atténuera un peu l'après-midi et il fera un peu plus doux, 9 à 19 degrés.
sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir mon cher Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. La tempête qui continue dans le sud-ouest, les Pyrénées-Atlantiques sont désormais placées en vigilance rouge à cause de risques d'inondation. Une vingtaine de départements sont en vigilance orange. Conséquence de ce coup de vent, il y a des coupures de courant jusqu'à 70 000 foyers privés d'électricité ce soir. Les services d'Enedis sont à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité. C'est ce que nous disait tout à l'heure Robin de Vaugelaire, le directeur de la communication d'Enedis.
Actuellement, nous avons 70 000 foyers privés d'électricité, essentiellement en Aquitaine, dans l'Occitanie et Centre-Val de Loire. Alors, ce qu'on constate, c'est essentiellement des arbres arrachés, des branches cassées qui sont venues percuter nos lignes électriques. Et nous avons mobilisé la force d'intervention rapide d'électricité avec des renforts qui sont venus de Côte d'Azur, également de l'Est de la France et d'Île-de-France pour pouvoir aider les équipes qui sont sur le terrain. 1500 techniciens spécialisés qui sont à pied d'œuvre pour rétablir l'électricité de ses clients. C'est extrêmement compliqué de rétablir avant ce soir, mais on avance plutôt vite sur les chantiers.
Alors Robin de Vaugelaire, le directeur de la communication d'Enedis, un homme de 70 ans a lui été tué ce matin lorsque son véhicule a très violemment percuté un arbre tombé sur la chaussée à cause de ces intempéries sur une route du Pays Basque. Et puis plus de 17 000 foyers également privés d'électricité en Corse ce soir à cause des vents violents qui balaient l'île. Les deux départements corses sont placés en vigilance orange par Météo France. Les dégâts matériels sont importants, toitures ou travaux, les arrachés, arbres déracinés en plein milieu de la route, des tuiles envolées. Les pompiers sont intervenus plusieurs dizaines de fois aujourd'hui. Dans l'actualité également, la déclaration de la soirée, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, qui appelle les cheminots en grève à faire une pause pendant les fêtes pour que les familles puissent se retrouver, dit-il. Le trafic sur les rails sera toujours au ralenti ce week-end, compté en moyenne avec un TGV sur 4 et un Transilien sur 6 en Ile-de-France. À Paris, 9 lignes de métro seront à nouveau fermées demain samedi. Et puis Jean-Paul Delevoye, de nouveau fragilisé, le monsieur retraite du gouvernement n'a pas déclaré à la Haute Autorité sa position de membre bénévole depuis 2016 au conseil d'administration de la Fondation SNCF. Le haut commissaire qui n'a pas exclu de démissionner pour préserver la réforme des retraites. Jean-Michel Blanquer lui accélère les discussions sur le sujet. Le ministre d'Éducation a commencé à recevoir les syndicats aujourd'hui qui réclament du concret depuis des semaines. Il rencontre toujours ce soir des enseignants à Nancy aux côtés du Premier ministre Édouard Philippe. Et puis une marée humaine qui a envahi cet après-midi le centre d'Alger pour conspuer le nouveau chef de l'État, à peine élu, Abdelmadjid Tebboune, au lendemain d'un scrutin très largement boycotté par les Algériens à 74 ans. L'ex-fidèle du président déchu Bouteflika a été élu dès le premier tour de la présidentielle hier avec plus de 58% des suffrages. Il est 20h33.
20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, Franck De Dieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne, et Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Alors Jean-Michel Blanquer débat avec des professeurs, des enseignants à Nancy. Il s'agit d'une sorte de mini grand débat national autour de la question de la réforme des retraites appliquée aux enseignants. Il était accompagné durant la première heure par Édouard Philippe qui a dû tirer sa révérence. Le discours de la méthode du Premier ministre, extrait.
Si on appliquait mécaniquement la réforme telle qu'elle doit fonctionner, j'allais dire mécaniquement, je pourrais dire absurdement, puisque c'est pas comme ça qu'on va faire, on obtiendrait des niveaux de pension, une fois que la réforme est mise en place, c'est-à-dire dans longtemps, des niveaux de pension qui seraient sensiblement inférieurs à ce qui existe aujourd'hui. Et évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça parce que l'objectif, c'est pas de diminuer le niveau des pensions des enseignants. L'objectif, c'est de faire en sorte que le niveau des pensions des enseignants reste identique à ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, pour pouvoir éviter cet effet, j'allais dire, dommageable de la réforme, il faut qu'on discute avec les organisations syndicales sur la façon dont on redresse la rémunération pendant la carrière des enseignants.
Roselyne Fèvre, il faut une série de grands, de mini grands débats pour expliquer la retraite catégorie de Français.
C'est exactement ça. Oui. C'est la formule du grand débat qui, dans le fond, avait fait ses preuves et qui avait marché et qui avait quand même contribué à éteindre un peu apaiser la crise des Gilets jaunes. Donc c'est une formule qui marche. Mais on a vu quand même, parce que moi j'ai regardé un petit peu avant de venir ici, ils étaient quand même un petit peu bousculés alors que Emmanuel Macron tout le monde était un peu bouche bée devant je me souviens de son premier grand débat pendant 5 heures, tout le monde l'écoutait. Je me souviens que moi j'étais aux urgences à l'hôpital et il y avait une chaîne d'infos et tout le monde le regardait bouche bée. Et là, ils ont été quand même tous les deux assez malmenés, j'ai trouvé, par les profs, interpellés parce que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude de se laisser faire. Oui. Donc, en tout cas, il est face effectivement à une corporation qui est dure, qui est difficile,
et surtout
une corporation qu'il faut valoriser quand même. Les profs, ils sont quand même mal payés, mais là, ils sont en train quand même d'ouvrir la boîte de Pandore des frustrations et des colères de toute la fonction publique, parce que les uns vont dire et nous aussi. Alors les hospitaliers, alors les policiers, effectivement. Donc on parle de 10 milliards sur la table. Oui. Le chiffre n'a pas été annoncé, mais c'est ce qui se dit, 10 milliards pour calmer cette catégorie de profs qui n'ont jamais quand même été revalorisés.
Il y a un prof assis face à vous, un professeur de droit à la Sorbonne, certes, mais professeur quand même. Thomas Clé, vous pensez qu'il y a une légitime inquiétude de la part des enseignants en France ? par rapport
à
ces questions.
Oui, alors je veux quand même pas qu'on fasse l'amalgame, parce que les professeurs d'université sont quand même mieux traités que les professeurs du secondaire. Donc,
c'est pour ça que j'ai ajouté professeur tout de même.
Voilà, mais c'est vrai que ce sont des collègues, et donc j'entends forcément leurs revendications, et on y est sensible. Et notamment, un des syndicalistes disait l'autre jour quelque chose d'intéressant, j'ai trouvé, à propos de la raison pour laquelle les salaires n'augmentaient pas, ou pas assez, ou pas autant qu'ils le voudraient. Il disait, parce que notre capacité de nuisance n'est pas la même que les cheminots. C'est-à-dire que nous, si on fait grève, bon, y aura un problème de garde d'enfants, mais on ne va pas bloquer la France. Donc là, et ce qui explique un certain nombre d'avantages sur les retraites dont bénéficient peut-être ou pas les régimes spéciaux, ce qui n'est pas le cas en tout cas de la fonction publique enseignante qui n'a pas de régime spécial. Nous n'avons pas de régime spécial parce que nous n'avons pas de capacité de nuisance.
C'est
intéressant et à prendre en compte dans le débat qui va arriver à la fin de la semaine prochaine au moment des fêtes de Noël, savoir est-ce que les cheminots se défendent pour la réforme en général ou pour les avantages particuliers de leur régime spécial.
Alors Franck de Dieu, je ne sais pas s'il y aura une grève des astronautes, qui aurait une capacité de nuisance moindre pour bloquer la France, mais vous les enseignants quand même, peut-être aurait-il eu besoin de quelques exemples très concrets ou du moins de promesses chiffrées.
Oui, alors on parle des fameux 10 milliards. Cette promesse, elle n'a pas été chiffrée. En revanche, il a dit et répété plusieurs fois face au syndicat d'enseignants qui ne veulent pas le croire, qu'il y aura il n'y aura pas de perdants au niveau des retraites. S'il y a une augmentation de salaire, très bien, il faut s'en féliciter, c'est tout à fait normal. Mais ça pose quand même trois problèmes. Le premier, c'est que on n'arrivera pas à faire une remise à niveau par rapport aux standards internationaux. Je pense par exemple à l'Allemagne. Parce que 10 milliards qui devraient s'échelonner sur plusieurs années, c'est quand même insuffisant pour le rattrapage. Il faudrait quand même mettre davantage. Deuxièmement, si on prend en considération le système, la classe des 1975, est-ce qu'on va augmenter certains profs et d'autres non? C'est-à-dire, j'imagine, à la salle des profs, la cohabitation, on va se regarder.
Compliqué.
Ça risque quand même d'être compliqué. Alors, il y a quand même des calculs actuariels à faire. Et puis, troisièmement, et les profs le redoutent, et peut-être ont-ils raison, c'est de dire que contre ces augmentations de salaire, il va y avoir des fonctions supplémentaires. Réunion de conseil de classe, assumer des devoirs supplémentaires.
Pour vous, c'est pas une bonne idée.
C'est toujours une bonne idée d'augmenter des professeurs. Et là, je suis pas d'accord avec Thomas. C'est-à-dire que quand même, ils ont peut-être pas une capacité de nuisance entre guillemets aussi forte, mais enfin, les citoyens ont parfaitement le sentiment qu'ils ont une utilité sociale et ils se rendent compte en pleine compétition internationale du savoir que les Français, il faut qu'ils soient, je dirais, éduqués, et c'est très important d'avoir des profs bien payés.
Évidemment, d'accord là-dessus. Les profs sont indispensables à l'élévation de la société. Non. Et je dis, c'est bien dommage.
Voilà, mais dans l'opinion publique,
c'est bien dommage qu'ils ne soient pas mieux traités.
Bien sûr, j'ai bien compris ça, mais dans l'opinion publique, ils ont quand même une très forte utilité sociale.
Comment est-ce qu'on rattrape les profs, Chloé Morin?
Comment est-ce qu'on rattrape les profs? Ça, je sais pas. J'ai l'impression que les simples promesses ne suffiront pas et qu'il faudra donc avoir un calendrier précis d'application des mesures avant que les choses ne bougent et que la confiance soit restaurée. Mais peut-être justement qu'on a basculé d'une ère où la capacité de nuisance effectivement était déterminante dans le bras de fer d'un gouvernement avec telle ou telle catégorie, à un temps où la bataille de l'opinion compte peut-être davantage et où on voit bien que le gouvernement va être tenté sans doute de céder à des catégories qui peut-être n'ont pas de capacité de nuisance mais sont populaires. Je pense aux policiers, je pense aux infirmières, etc. Alors que des cheminots qui ont une grande capacité de nuisance mais sont impopulaires et sont considérés comme des nantis par un certain nombre de Français, eux, le gouvernement peut les utiliser comme bouc émissaire et assumer le rapport de force avec les cheminots et finalement en tirer une image plutôt favorable d'un gouvernement qui aura su tenir bon face à un certain nombre de catégories qui voulaient bloquer le pays.
Allez, la réforme des retraites, il en était question avec Martine Aubry, que nous avons interviewé, puisque nous allons évoquer la situation à Lille, pour les municipales dans un instant. Roselyne Fèvre, je vous libère. 20h41 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
Après le sud-ouest, le nord-ouest de la France à son tour, placé en vigilance orange par Météo France. Une alerte pour vent violent pour 7 départements de la Manche à l'Aisne. Les Pyrénées-Atlantiques, elles, restent placées en alerte rouge pour inondation. Je demande à ceux qui sont dans le mouvement de réfléchir à faire une pause durant les fêtes. Les mots du patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, dans une vidéo adressée aux cheminots mobilisés contre la réforme des retraites. Une demande justifiée pour permettre aux familles de se retrouver. Les vacances de Noël débutent dans une semaine. Réponse immédiate de Sébastien Mariani, secrétaire général adjoint de la CFDT Cheminots. Le meilleur moyen pour qu'il y ait des trains à Noël, c'est qu'il y ait des réponses à nos revendications d'ici au 17 décembre. Fin de citation. Un trafic sur les rails à nouveau très perturbé ce week-end. En moyenne, un TGV sur 4 en circulation, 3 liaisons TER sur 10, essentiellement par autocar. Le trafic restera fortement perturbé lundi. Nouvelle étape dans la procédure de destitution contre Donald Trump. Une commission du Congrès américain approuve l'acte d'accusation contre le président américain pour abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Le bus des municipales de France Info, il roule celui-là, hein, a fait une halte à Lille, la capitale du Nord. Martine Aubry y est donnée largement tête du premier tour des élections municipales selon notre sondage Ipsos Soprasteria pour France Bleu, France Info, la Voix du Nord. Dans le cadre donc de cette opération, le bus des municipales, la maire de Lille devance nettement Stéphane Bally d'Europe Écologie Les Verts 18% et Violette Spielboot, son ancienne directrice de cabinet, qui est la candidate investie par La République En Marche, troisième avec 15 points. Voilà pour cette enquête à retrouver sur franceinfo.fr. Martine Aubry, qui brigue donc ce quatrième mandat, ira manifester mardi contre la réforme des retraites. L'ancien ministre du Travail, qui a fustigé le gouvernement et la réforme ce matin, s'en est expliqué au micro de France Info.
Je n'arrive pas à comprendre comment le gouvernement est à ce point-là sourd aux demandes et aux inquiétudes des Français. Il demande plus de justice, plus d'équité et de la clarté. Tout ce qu'annonce le gouvernement est anxiogène. Aujourd'hui, on comprend que ce n'est qu'à 64 ans qu'on pourra avoir une retraite complète, même si on a déjà travaillé 43 ans. Et on voit que ce sont les jeunes qui ont déjà tellement de mal à rentrer sur le marché du travail, à se loger, que c'est eux qui vont devoir payer les retraites. Sur les travaux pénibles, tout ce qui avait été mis en place a été bafoué, ou quasiment. Les enseignants, avec ce système, ils perdent 25 à 30%. On va pas nous faire croire qu'on va augmenter de 25 à 30% leur salaire. Et tout est comme ça. C'est pas clair, on ne dit pas la vérité aux Français, l'angoisse est totale, alors que ce gouvernement aurait dû faire une vraie réforme juste et équitable. Et je pense que les Français l'auraient suivi.
Thomas Clé, vous qui êtes un fin connaisseur, hein, du Parti Socialiste, faut-il le rappeler, je sais pas.
Oui, moi ça me fait plaisir qu'elle soit haute dans les sondages à Lille, parce qu'au fond, elle incarne une forme d'intégrité en politique. En plus, c'est pas agréable, son ancien dircab qui vient de se présenter contre elle. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui a un parcours quand même d'intégrité, de crédibilité, qui est incontestable. Et en même temps, par rapport à nos débats depuis tout à l'heure, puis depuis déjà un certain temps, c'est un peu le retour quand même de la... Elle incarne, elle, la politique, l'ancien monde. Donc c'est un peu le retour dans l'ancien monde. Et si on met ça en parallèle avec les manifestations qui se sont produites la semaine dernière, c'est aussi des manifestations à l'ancienne qu'on a vu revenir. Il n'y a plus l'anarchie des gilets jaunes et on voit une bonne vieille manifestation avec...
Ça vous plaît, ça?
Bah, en tout cas, je préfère quand il n'y a pas trop de débordements. Oui, pardon. Pardon, Jean-François Aquili, si on peut éviter de casser, c'est quand même mieux. Mais j'ai envie de faire un parallèle avec Paris, si vous me permettez, parce que la mère des batailles, ça va être Paris en mars prochain. Et je crois que Anne Hidalgo rêverait d'avoir de tels sondages. Comme quoi, ce n'est pas une question du nombre de mandats, c'est pas une question d'étiquette PS, c'est une question de bilan. Le bilan de Martine Aubry est manifestement très bien perçu.
Qui est salué dans ce sondage.
À Lille, voilà. Et c'est autrement à Paris.
Alors, Franck de Dieu, 4 mandats, cela ferait beaucoup?
Là, si j'en crois le sondage, elle est bien placée à 30%. Moi, je ne crois pas que c'est forcément une histoire de bilan, en fait. Je me demande si c'est pas, et elle en joue très bien, une histoire de séquence. Parce que là, en ce moment, c'est sa séquence. Et on est dans une séquence sociale. Donc, effectivement, elle a une légitimité pour parler de ces questions de retraite, des questions des 35 heures. Elle a une image dans le gouvernement Jospin d'une personne qui était un peu plus à gauche que les autres, notamment que Dominique Strauss-Kahn. Donc là, c'est sa séquence. Demain, il y aura peut-être une séquence écolo. Il y a de ça un mois.
C'est le bon tempo.
C'est le bon tempo, mais sauf que les élections, pardon, c'est en mars. Et je vais donner la parole à Chloé, qui est une fine analyste des sondages. Mais Demain, s'il y a des jeunes dans la rue qui réclament plus d'écologie, etc., on aura quelque part un peu dans les sondages. Abandonner cette séquence sociale, elle sera moins forte. On sera dans une séquence, non pas de l'ancien monde, mais de l'hyper nouveau monde.
D'accord. Vous avez raison de voir, en fond, l'instant hein, qui se produit. Attendez, Chloé Moret, on va écouter d'abord Violette Spielboot, la candidate La République En Marche aux élections municipales de Lille, qui était l'ancienne donc d'IRCAB, directrice de Canim. Déplaisant, dit Thomas Clé. Elle était invité du 1850 France Info.
Martine Aubry a été anti-Sarkozy, anti-Hollande, maintenant anti-Macron. Aujourd'hui, on a une ville qui est extrêmement isolée, une métropole qui perd beaucoup de chances sur la scène nationale et internationale. On est en retard sur l'attractivité, sur le rayonnement. Et puis, on a une maire sortante qui, finalement, pour être candidate aux élections municipales, passe son temps à critiquer les mesures du gouvernement. Moi, j'ai envie de lui dire, occupez-vous des Lillois, madame le maire. Et regardez, écoutez. Je pense que le dialogue est rétabli au niveau national et que nous n'avons pas de leçons à recevoir.
Chloé Moret, on entend un tout autre son de cloche là. Hein
ouais. Oui, alors c'est vrai que ce qui est très étonnant et sans doute inconfortable pour la candidate LREM, c'est au fond de parler du bilan qui est aussi le sien. Bah, donc
bien sûr,
comment est-ce qu'elle peut...
Vous pourriez l'appliquer à l'actuel président de la République qui était membre du gouvernement. On n'est pas forcément comptable de tout le bilan précédent.
Non, mais c'est quand même une situation inconfortable. Et ça l'était aussi pour Emmanuel Macron, d'ailleurs, de d'avoir sa part de responsabilité dans le bilan de François Hollande, tout en promettant un changement radical. C'est quand même inconfortable. Après, c'est vrai que c'est une séquence sur le plan national qui sert plutôt Martine Aubry, dont l'identité politique est étroitement liée aux valeurs de justice sociale, d'égalité, etc., etc. Donc c'est pas un hasard que finalement son intervention sur le plan national la serve. Mais si on regarde jusqu'ici, elle était assez silencieuse dans le débat national et probablement comme beaucoup d'autres élus et candidats municipaux, elle jouait une partition qui était plutôt celle de la localisation du débat politique. Et quand on regarde sur les enjeux Lillois, les sujets prioritaires pour les personnes qui ont été interrogées par Ipsos, c'est 1. La sécurité, 2. L'environnement, 3. La propreté et 4. La circulation et le stationnement. Donc on voit que c'est des sujets qui sont bien éloignés du débat politique national qui est aujourd'hui focalisé sur les retraites.
Et pour conclure, Thomas Clé, Lille, carrefour de l'Europe, on le sait, porte d'entrée de la Grande-Bretagne, la capitale du Nord qui a peut-être une carte à jouer avec le Brexit finalement.
Vous voulez dire Lille, la nouvelle Londres. Bah écoutez, ce serait bien, évidemment. On va parler, j'imagine, de ce qui se passe en Angleterre. Mais c'est sûr que Lille est la plus grande métropole proche de l'Angleterre.
Oui, Franck de Dieu, sur ce côté de ce Lille face à la Grande-Bretagne, avec cette nouvelle Angleterre qui arrive, si je puis dire, qui sera désormais très indépendante de nous, il y a peut-être une carte à jouer pour la capitale du Nord.
Il semblerait, oui. Alors là, après, ça dépendra du contenu de l'accord de l'après-Brexit, parce qu'on se dirige, me semble-t-il, c'est pour faire une transition par rapport à Boris Johnson. C'est que là, je dirais, le Royaume-Uni est en position de force pour négocier avec l'Union européenne. Premièrement, position de force parce qu'elle a une légitimité qui est considérée. Et là, c'est presque un point de droit quelque part, un point de droit public.
Mais le droit est partout.
Vous avez un gouvernement qui a une légitimité directe face à une Union européenne qui a une commission qui a une légitimité très 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 indirecte. Donc effectivement, le Royaume-Uni est en position de force. En revanche, ce qui risque de se passer, c'est qu'on acte, je dirais, le principe du Brexit et qu'on arrive à négocier, je dirais, tout ce qui est à la périphérie, qui est plus technique, qui est plus concret, des accords commerciaux, des considérations financières, plus tard. C'est ce qui va probablement se passer. Et pour répondre à votre question, c'est à l'aune de cela, de façon plus technique, qu'on verra si Lille a une carte à jouer par rapport à Londres.
Allez, on va évoquer la vague conservatrice qui souffle sur le Royaume-Uni dans un instant. 20h51 sur France Info. Tout d'abord, ce rappel de l'info avec vous, Steven Goyer.
Une réforme historique pour le pays, mot choisi par Emmanuel Macron pour qualifier le dossier des retraites. Le président de la République évoque une réforme de refondation au 9e jour de la contestation contre le projet. On n'est pas totalement rassuré. Déclaration sur France Info de Catherine Navbekti, secrétaire générale du syndicat SGEN-CFDT. Après sa rencontre cet après-midi avec Jean-Michel Blanquer, les syndicats de l'éducation nationale maintiennent leur appel à la mobilisation ce mardi. Une partie de l'Hexagone en vigilance orange pour vent violent dans 7 départements du Nord-Ouest et en Corse pour pluie inondation. Dans le sud-ouest, les Pyrénées-Atlantiques sont même placées en alerte rouge inondation. Le caractère terroriste de l'attaque dans le quartier de la Défense écarté par les enquêteurs. Un homme a ce matin attaqué à l'arme blanche 3 fonctionnaires de police. Il a été abattu dans la riposte sans domicile fixe. L'homme était recherché après s'être échappé d'un hôpital psychiatrique au mois de juin. Votre président ne me représente pas, l'une des banderoles affichées dans les rues d'Alger. Première mobilisation massive après l'élection au premier tour d'Abdelmadjid Tebboune. Un homme perçu comme le symbole de la continuité du pouvoir en place.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Boris Johnson a donc remercié les électeurs britanniques qui ont porté haut et fort ce triomphe des conservateurs aux législatives en Grande-Bretagne. La déclaration, du moins un extrait, du Premier ministre britannique.
I want to thank the people of this country.
Je veux remercier les gens de ce pays pour avoir voté pour cette élection de décembre qui nous donne maintenant, avec ce nouveau gouvernement, la possibilité de faire changer ce pays et de finir le Brexit, et pas seulement le Brexit. Nous allons réunifier ce pays, le faire avancer en nous concentrant sur les priorités des Britanniques et avant tout sur le système de santé. Oui, nous allons recruter 50 000 infirmières supplémentaires et 6 000 médecins et nous allons reconstruire 40 nouveaux hôpitaux.
Alors 365 députés élus conservateurs des Tories, 48 de plus dans cette Chambre des communes qui compte 650 sièges, autant dire que la majorité absolue dans la poche de Boris Johnson. Chloé Morin, comment expliquer cette fantastique victoire? Ce sont les mots de Donald Trump.
Alors c'est la victoire, à mon avis, de la clarté, en réalité, des messages politiques. C'est une campagne qui a été dominée très très largement par le sujet du Brexit. On a tendance à l'oublier, mais ça n'était pas un référendum sur le Brexit. C'était bien une élection pour décider qui allait gouverner le Royaume-Uni pendant les 5 ans à venir. Or, quand on regardait les sujets de la campagne, le Brexit dominait très 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 largement tous les autres sujets, que ce soit la réforme du système de santé, l'emploi,
oui, tout
l'économie,
est Brexit,
etc.
Désormais en
Donc
Bretagne,
la
là,
question qui était posée,
encore, oui.
C'est l'avenir du Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne. Or, dans le paysage politique, vous aviez le Parti conservateur dont le message était très simple et très clair, c'était « Get Brexit done ». Donc, c'était assez simple et binaire. Et donc, Boris Johnson a réussi, derrière ce message, à fédérer à peu près l'ensemble des partisans du Brexit. Mmh. Face à cela, vous aviez plusieurs candidats dont le message était assez ambigu.
Donc c'est la victoire de la clarté finalement, et peut-être un peu aussi...
Et Jeremy Corbyn du Labour avait un message extrêmement complexe et ambigu sur cette question.
Il promettait quand même un nouveau référendum.
Mais oui, justement, il disait pas on va rester. Alors, il disait on va faire un nouveau, on va renégocier, puis on va refaire un référendum.
Est-ce que c'est pas aussi la victoire du ras-le-bol?
Victoire de la clarté contre le ras-le-bol. En tout cas, moi, trois commentaires très, très brefs. D'abord, Boris Johnson est un fantastique stratège politique. Il n'a pas d'opinion, pas d'idéologie. Il voulait arriver au pouvoir coûte que coûte. Il y est arrivé. Il a une majorité pour le soutenir. Il aurait pu soutenir la position exactement inverse. Il a menti un nombre incalculable de fois, mais c'est un stratège politique, si c'est ça la politique en tout cas. Deuxièmement, Jeremy Corbyn est le plus mauvais leader du Labour de l'histoire. Il a à peu près tout perdu et il a réussi à faire en sorte que ses propres électeurs ne savaient même plus pour qui voter. Nous ne voulons pas voter pour Boris Johnson, mais nous ne voulons pas non plus voter pour lui, compte tenu notamment de ses propos ambigus sur l'antisémitisme. Troisième commentaire, c'est probablement une victoire amère qui se dessine. Parce que certes, la majorité politique est forte, mais on voit bien ce qui risque de se passer. C'est une fragmentation de la Grande-Bretagne. On a les indépendantistes écossais qui ont gagné 48 sièges sur 59,
oui.
qui ont immédiatement demandé un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. En Irlande, c'est la première fois que les nationalistes l'emportent sur les unionistes. Donc on pourrait, le résultat de tout ça, ça pourrait être, ça j'allais dire, une balkanisation, c'est peut-être malvenu, c'est peut-être un anachronisme, mais une fragmentation
oui, dans les deux sens,
de la Grande-Bretagne, et donc une victoire finalement amère. Et donc, je conclue par un paradoxe, finalement, Boris Johnson n'est pas si stratège que ça.
Franck de Dieu, au fond, la Grande-Bretagne, là, entame, le Brexit va se produire vraisemblablement le 31 janvier, quelques mois, voire années difficiles, parce qu'il va falloir négocier avec l'Union européenne.
Oui, mais elle a passé 4 années très difficiles, et je dirais, cette difficulté, elle l'a rencontrée du point de vue, par exemple, économique, sans encombre. On n'a pas eu, je dirais, l'effondrement de la monnaie, l'augmentation des taux d'intérêt, on le voit pas, ça. Moi, je crois que, contrairement à ce qui a été dit, il faut pas s'en tenir à une interprétation, je dirais, du ras-le-bol. C'est pas qu'une interprétation du ras-le-bol, il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui s'est joué, c'est quand même l'idée d'un peuple qui, malgré ces difficultés concrètes qu'on a largement commentées pendant ces 4 ans, ces revirements, ce flou, je dirais, tient à sa souveraineté. C'est quand même quelque chose de plus fondamental qu'un ras-le-bol de voir, je dirais, des députés se batailler. Non, il y a quand même une idée de retrouver sa souveraineté.
Ou simplement un ras-le-bol d'être dans l'incertitude.
Oui, mais il y a aussi cette idée. Il y a aussi cette idée de recouvrer sa souveraineté d'un peuple qui veut être maître de son destin. Et on le retrouve un peu partout. Parfois avec des intentions qui ne sont pas des intentions d'ouverture aux autres, certes, mais tout de même, je dirais, Cette Angleterre, on a beaucoup dit qu'elle était divisée. On a les somewhere et les conclure. Anywhere. Oui. C'est-à-dire ceux qui sont de quelque part et qui l'affirment et ceux qui sont un peu de nulle part et qui sont, je dirais, plutôt de l'élite européiste.
Voilà, trois regards différents ce soir différents sur cette victoire des conservateurs en Grande-Bretagne. Vous avez quand même le dernier mot, Franck de Dieu, la une de Marianne cette semaine.
On a le pays à l'arrêt des Français dans la rue et on se demande ici c'était lui le problème. Lui, vous avez bien compris, Emmanuel Macron.
Allez, c'est la une de Marianne. Demain soir, les informés de France Info avec Neyla Latrousse, le retour pour le week-end. Pour ma part, je vous souhaite passer une excellente soirée. Merci, au revoir.